pour que chacun d'entre nous, on puisse être sauvé. Amen. Et la foule s'élève en disant « Amen !» Donc voilà, j'ai voulu imager, d'ailleurs on le voit Nicolas, j'ai voulu imager le Dieu d'abondance par ces quelques photos, parce que c'est un détail, un gros détail, mais un détail d'importance, mais Dieu est un Dieu d'abondance. Lamentations 3, les versets 22 et 23, et là c'est une belle promesse, et je pense que c'est la plus belle promesse, l'une des belles, plus belles promesses que Dieu peut, a pu nous laisser dans sa parole. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Chaque phrase a vraiment son poids dans ce verset. Quand on prend la globalité de ce verset, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça veut dire qu'il y a un stock qui est là, et le stock ne peut pas s'épuiser. Vous prenez, alors c'est vrai que les enfants aiment bien les bonbons, on prend un paquet de bonbons, et vous piochez, vous mangez. Alors à la fin, vous êtes malade. Mais imaginez le paquet qui ne s'épuise jamais. Vous êtes gavé, mais vous pouvez continuer à manger parce que le stock ne s'épuise jamais. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Si vous avez les cœurs tristes, vous avez les cœurs qui sont avec un joug, qui sont lourds, eh bien les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Dieu a une compassion pour chacun d'entre vous ici. J'ai pas pris le micro ce matin parce que les choses se sont passées différemment, mais j'étais là et j'ai reçu dans mon cœur de pouvoir à la limite citer chacun de vos prénoms et de vous dire que Dieu vous dit que vous avez une importance à ses yeux. C'était la parole que j'avais ce matin pendant la louange. Je pourrais citer chacun de vos prénoms ou vous dire, fermez les yeux, imaginez-vous devant Dieu, et Dieu vous dit personnellement, tu as une importance pour moi. Il faut qu'on. Alors, c'est vrai que je commence beaucoup mes phrases par il faut, mais on se doit d'avoir ce caractère à dire mais c'est vrai Seigneur, j'ai une importance pour toi. Qui je suis moi pour avoir cette place? Déjà moi Frédéric, pourquoi j'ai cette place ici? Pourquoi Seigneur, est-ce que tu souhaites à ce que je puisse m'engager? Parce que j'ai cette importance à ses yeux. Mais vous pourriez très bien être à ma place. Vous pouvez très bien être à la place d'Aurélie au clavier ou Sandy au clavier, de Paul à la guitare, etc. Ou même que ce soit dans n'importe quel service dans l'Église, vous avez une importance aux yeux de Dieu. Mais hormis même le service, Dieu vous dit, je vous aime, je t'aime. Tu as une importance pour moi. Elle se renouvelle chaque matin. Non seulement le stock ne s'épuise pas, mais en plus, elle se renouvelle chaque matin. C'est-à-dire que même le stock qui est épuisé, j'aurais tendance à dire que Dieu le prend, le jette, et puis il en met des nouvelles, des toutes fraîches, le matin. Et nous, on est là, et encore paquet de bons becs, et on vient, et on pioche dans le paquet, et on continue à se gaver. Parce que Dieu a de l'abondance pour nous. Il a cette abondance. Il a des bénédictions nouvelles pour nous chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et oui, Dieu est fidèle. Est-ce que toi, tu es fidèle avec Dieu? Dieu est fidèle dans les petites choses, dans les grandes choses. Et il nous le dit bien dans sa parole. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, alors je vous en confierai de plus grandes. Et donc, dans les petites choses, il faut que l'on puisse déjà avoir cette fidélité pour Dieu. Dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai cette importance pour toi. Et toi, eh bien, moi, tous ces petits détails de la vie, je vais être fidèle, je vais pouvoir m'investir, et puis au fur et à mesure, je vais grandir, et tu vas m'en confier de plus grande encore. C'est beau? Vous ne trouvez pas que c'est beau? C'est un super programme? De Corinthiens 9:8, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Toute bonne œuvre? Ouais, toute bonne œuvre. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins. Alors voyez le nombre de tout qu'il y a dans ce toujours, toutes, tout, vous ayez encore en abondance pour toutes bonne œuvre. On pourrait s'arrêter juste avant pour toute bonne œuvre. Dieu nous dit, voilà, je vais faire en sorte que vous soyez toujours, en toutes circonstances, que vous soyez dans l'abondance. Allez, mangez-vous, gavez-vous, je vous donne. Sauf qu'à la fin de ce verset, il y a pour toute bonne œuvre. Et là, on revient à la fidélité de Dieu. Dieu est abondant, effectivement, Dieu est abondant, Dieu nous aime. Dieu souhaite que vous puissiez avoir cette croissance, à la fois spirituelle, mais croissance dans tous les domaines de votre vie. Mais il dit bien qu'il est capable de vous donner, mais pour toute bonne œuvre. Et c'est là où il y a un point qui est super important, c'est que Dieu ne va vous donner que si vous êtes capable d'assumer. Je la refais. Dieu va vous donner que si vous êtes capable d'assumer ce qu'il va vous donner. Parce que trop d'abondance tue l'abondance. Et s'il y a trop d'abondance dans votre vie, vous allez couler. Et Dieu a cette sagesse de pouvoir vous donner les choses en abondance, mais dans une bonne abondance. Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une Ferrari. Vous savez combien ça coûte la révision d'une Ferrari quand vous la mettez à la révision? C'est un mois de salaire, hein? Ou deux mois de salaire, j'en sais rien, mais donc vous ne pouvez pas l'assumer. Ah oui, je suis dans l'abondance, j'ai une Ferrari, elle est belle, elle est rouge. Mais est-ce que je peux assumer ma Ferrari? Non. Seigneur, donne-moi d'aller témoigner, on parlait tout à l'heure des musulmans. Mais attends, tu ne vas pas voir des musulmans comme ça, sans avoir quoi que ce soit à leur dire. Il faut que tu te formes. Je vous ai témoigné il y a 15 jours ou la semaine dernière, de quartier libre. On est allé donc dans ces quartiers, je vais revenir dessus, je vais peut-être vous gonfler, hein, mais c'est vrai que ça m'a touché. Ça m'a touché ce moment, ça a été 2 heures intenses. Les 48 heures avant, j'ai lutté pour me dire je ne vais pas y aller. Et puis en fait, ça a été 2 heures intenses. On est arrivé dans ces quartiers, donc vous imaginez, hein, c'est les quartiers où, à la limite, vous pouvez imaginer une voiture brûlée dans le coin, une voiture sur des parpaings de l'autre côté, des bars HLM, des jeunes avec des mobilettes, enfin, on voit vraiment le côté. Donc, ils vont justement, le quartier libre, dans les quartiers les plus chauds de Mulhouse. Alors, juste pour info, ils vont dans 5 quartiers, sauf que ce jour-là, ils ont évité d'aller dans un quartier parce que ce quartier-là brûlait des voitures sur le parking de l'église. Voilà. Bon. Donc ils se sont dit on va calmer un peu le jeu et on va les laisser. Voilà, on va accuser un petit peu le coup et donc on va aller dans les 4 autres quartiers. Et quand on est arrivé, alors il y a un des pasteurs là-bas à Mulhouse, dans la porte ouverte, qui s'appelle Bertrand et tout le monde l'appelle Bébert. Et Bébert, c'est un mec, il a toujours un sourire sur les lèvres, c'est impressionnant. C'est le mec, il a une prestance, c'est un vieux jeune, ou un jeune vieux. Bon. Et, hein, c'est vrai, un bébé, il est... Bon. Et quand il est arrivé dans ce quartier, tous les enfants sont arrivés autour de Bébert. Bébert, Bébert, Bébert. Et on entendait Bébert dans tous les sens. Et des petits, donc forcément, hein, des musulmans, des arabes, etc. Hein, toutes les... Il n'y avait pas un prénom français, j'en ai pas retenu un seul. Si, il y avait une Océane. Et d'abord, il l'appelait la grosse Océane. Bon, et les enfants sont méchants entre eux. Hein. Elle était costaud la petite. Mais un gamin, il me dit, oh, ça c'est la grosse Océane. Je dis, attends, c'est pas gentil de l'appeler la grosse Océane. Ouais, mais tout le monde l'appelle comme ça. Bon, d'accord. Bon. Et effectivement, et les grossièretés, donc ça a fusé dans tous les sens. Mais il y avait cette joie de vivre qui était là de ces enfants, parce qu'ils étaient demandeurs. Ils étaient demandeurs. Quand Quartier Libre vient tous les 15 jours, eh bien les enfants les attendent. Ils attendent Bébert. Ils attendent l'équipe de Bébert, donc ils ont des maillots jaunes avec marqué Quartier Libre, avec un petit poussin dessus, c'est rigolo. Mais il y avait cette joie qui était là. Ces enfants étaient contents de voir. Et effectivement, on peut aller faire Quartier Libre, et j'espère qu'un jour on puisse avoir une équipe Quartier Libre dans l'église. Mais ça ne se fait pas comme ça. Il faut avoir vraiment ce cœur d'aller jouer avec les enfants. Et c'est vrai que moi j'en ai pris quelques-uns, j'aime beaucoup les enfants, et j'ai réussi à en prendre quelques-uns dans mes bras, c'est chaleureux, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de leur montrer qu'on les aime. Et en fait, Quartier Libre va pour dire aux enfants qu'ils les aiment. Et j'ai trouvé ça super joli. Je voulais vous montrer la vidéo, mais je ne l'ai pas prise. Donc voilà, aujourd'hui, Dieu peut donner en abondance, mais trop d'abondance peut tuer l'abondance, et ça veut dire qu'on va couler. Aujourd'hui, on a des personnes, et des fois je taquine les gens comme ça en disant « mais toi, t'es trop béni ». T'es trop béni. Il y en a des gens qui disent, bah oui, ben moi, je viens de trouver un travail. Tiens, j'avais mal au dos. J'ai plus mal au dos. J'ai trouvé un compte. Enfin, on voit qu'il y a toutes les bénédictions qui arrivent. J'ai dit, toi, t'es trop béni. Faut qu'un jour, il faut que. Je sais pas, on va. Mais en fait, ce sont des gens qui ont cette capacité à assumer les bénédictions de Dieu. Et donc, Dieu leur permet et Dieu leur donne au fur et à mesure. Mais ça, c'est parce qu'il y a des fidélités qui sont là dans les petites choses et Dieu va en donner des plus grandes parce qu'on peut se permettre d'assumer comme ça. Pierre 1, les versets 1 à 8. J'ai pris dès le début. Parce que, d'ailleurs on va le lire, « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix. » Je me suis arrêté sur ces deux mots, « du même prix ». Est-ce que c'est moi? Est-ce que je ne comprends pas bien? Ou c'est bien marqué « du même prix » ? Est-ce que cette foi a un prix ? Oui ? Non ? Ça veut dire que pour avoir une foi, il faut payer quelque chose. On est d'accord? Pour avoir une foi du même prix, ça veut dire qu'il y a un engagement de chacun et qu'on est prêt à payer le prix pour avoir de la foi. Et que si on a de la foi, on est capable d'assumer des bénédictions ou des attaques. Et que si on a payé le prix, qu'on a de la foi et qu'on a des bénédictions, ça veut dire que Dieu, en fonction de l'engagement, et parce qu'on a payé le prix, Dieu nous donne en abondance. Est-ce que j'ai bien compris le passage ou pas? À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu, je rappelle que la justice, ce n'est pas un tribunal, que c'est être juste devant Dieu. Donc, on paye un prix, on est juste devant Dieu. Et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées, que la grâce et la paix vous soient multipliées, je suis fidèle dans les petites choses et Dieu multiplie, que la grâce et la paix, Dieu donne en abondance, la grâce, la paix, il multiplie par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, virgule, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature. Il n'y a pas de point dans la phrase. Participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu à la science la tempérance, à la tempérance à la patience à la piété l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas moi qui le dis. Et je pourrais arrêter mon prêche ici. Je ne vais pas la relire parce que... c'est 2 Pierre, pardon. Le 1, le 2 est à côté du 1. J'ai un gros doigt et voilà, j'ai mis un 1 à la place du 2. 2 Pierre. Je pourrais arrêter mon prêche ici. Je ne suis pas donneur de leçons. Loin de là. Ce matin, je disais à Pasquine dans la voiture, ce prêche, il est pour moi. Je pourrais aller m'asseoir et m'écouter parler. C'est difficile. Il faudra que j'essaye. Essayons un jour. La vitesse du son. Mais voilà, non. La Bible est très claire. La Bible, elle est écrite noir sur blanc. On a une Bible. On a l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit nous révèle les choses dans la parole. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre en pratique. Il n'y a plus qu'à mettre en pratique. Soyons prêts à payer le prix. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont capables à payer le prix? Je lève la main le premier. Je suis prêt à payer le prix parce que je veux voir la gloire de Dieu sur ce monde, sur la France, sur la métropole lilloise, sur cette église, sur chacun d'entre vous. Sur Fred qui est sur l'estrade en ce moment. Je veux voir ça. Je veux voir vraiment des témoignages forts comme on a entendu ce matin. Encore plus forts comme on va entendre bientôt. Et encore plus forts comme on va entendre après le bientôt. Mais Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux la voir dans cette église. Et je pense que chacun ici, on a cette importance. Et Dieu nous dit à chacun, tu es important à mes yeux. Ne pensez surtout pas que vous n'avez pas votre place dans cette église. Ne pensez pas que les gens qui sont dehors sont des gens végétatifs qui passent dans la rue et qui n'ont pas non plus leur place dans cette église parce qu'ils ont une place dans le cœur de Dieu. Et Dieu aime chacun d'entre nous, ici et dehors, de la même façon. Il n'y a pas de chouchou, Dieu n'a pas de chouchou. Ce n'est pas parce que je suis sur l'estrade que je suis un chouchou de Dieu. Ne le croyez surtout pas ou alors je descends. Et je vais m'écouter parler. Pour pouvoir changer, on a aujourd'hui un grand mot qui arrive dans les médias, c'est celui-là plutôt, l'intégrisme. Hier, j'entendais Marine Le Pen qui demandait « S'il vous plaît, messieurs les Juifs, bon, on a envie d'interdire le voile dans la rue, alors si vous les Juifs, vous pouviez enlever la kippa, ce serait pas mal. » D'accord ? Ça, c'est du laïc intégriste. Qu'est-ce que c'est que l'intégrisme ? C'est une attitude et une disposition d'esprit de certains croyants qui, au nom du respect intransigeant de la tradition, se refusent à toute évolution. Ça veut dire, en deux mots, on est dans une prison. On est dans une forteresse. Et je vous rappelle que dans le grec, la forteresse, elle a deux significations. La forteresse, c'est dans le sens où je suis dans ma forteresse pour me protéger de l'extérieur, mais elle est aussi dans le sens prison, c'est-à-dire que pour te protéger de l'extérieur, eh bien, on va t'enfermer pour que toi, tu ne sois pas nocif pour l'extérieur. Donc il y a ces deux caractères, vous voyez la nuance ? Une pour me protéger, je me fais une carapace, je me fais... Et à partir de là, je suis dans ma prison, mais ma propre prison, et il y a celle où on va t'enfermer parce que tu es nocif pour l'extérieur. D'accord ? Et donc l'intégrisme, quand on parle d'évolution... Et ça, c'est un truc qui m'énerve aussi, c'est qu'on entend dire, j'ai entendu cette semaine, par rapport au mariage homosexuel, une catholique qui disait, alors c'est une catholique, mais bon, il y a peut-être des, je ne sais pas, hein, je cite, parce qu'ils sont allés dans une église catholique pour poser des questions, et la dame disait, mais oui, mais nous, en tant qu'église, on doit aussi évoluer avec le caractère du monde. Elle n'a pas lu la Bible. Dans Osée, il y a un petit verset qui est là, il dit « Faute d'enseignement, mon peuple périt. Faute d'enseignement, mon peuple périt. » Et il y en a un autre qui dit « Quand je reviendrai sur terre, dans quel état trouverai-je mon église ?» Donc l'intégrisme aujourd'hui fait du mal, parce que je pense que ça va être un des mots qui va être sympa pour pouvoir un peu rentrer dans les tribulations de l'église. Parce qu'il y a des intégristes. Y compris dans les évangéliques, il y a des intégristes. Oh, toi, tu viens de te convertir, il faut absolument que tu arrêtes de fumer. Si tu fumes, c'est parce que tu n'es pas vraiment chrétien. Non, laisse-lui le temps. Les choses vont se faire. Toi, tu viens de te convertir, faut que tu absolument que tu prennes le baptême, là, maintenant, il faut qu'on te baptise. Non, laisse le temps. Laisse le temps. Les intégristes. Par contre, si on est dans l'intégrité, alors là, ça va mieux. Être intègre, c'est être honnête devant Dieu. On est intègre. On a une parole, on a la Bible qui nous enseigne ce que Dieu veut de nous et ce qu'on peut faire pour Dieu. Et à partir de là, on va être intègre devant Dieu. Et on va rentrer dans l'intégrité. C'est l'état de quelque chose qui a toutes ses parties, qui n'ont subi aucune diminution. La Bible, elle ne change pas. Dieu l'a écrite telle qu'elle est. C'est l'un des livres les plus modernes. D'accord ? Il a été écrit il y a bien longtemps. Et encore aujourd'hui, il est d'actualité, ce livre. Et en plus, c'est un livre qui a 2000 ans et son auteur n'est même pas mort. C'est le seul livre au monde, le plus vieux du monde, et l'auteur n'est même pas mort. Aucun retranchement. Dieu nous a prévenus, n'enlevez aucune parole de ma Bible. Parce que ça, vous aurez affaire au Père Céleste. Et quand le Père Céleste donne une fessée, eh bien, il peut en donner. Hein. Je ne dis pas que Dieu est un Père fouettard. Mais Dieu permet des choses et il y en a d'autres qu'il ne permet pas. l'intégrité du territoire d'une œuvre, état de quelque chose qui a conservé sans altération ses qualités et son état originel, conserver l'intégrité de ses facultés intellectuelles malgré l'âge. Joli cet exemple. Qualité de quelqu'un, de son comportement, d'une institution qui est intègre, honnête. Soyons des chrétiens intègres. Ne soyons pas intégristes, mais soyons intègres devant Dieu. Et à partir de là, si on rentre dans cette intégrité, dans cette honnêteté pour Dieu, on verra les choses changer. Et j'attends ça avec une grande, grande impatience. Non seulement ça commence à bouger, ça bouge déjà, mais attendez-vous à voir de grandes choses. Des miracles, on va en voir, et de plus en plus grands. C'est moi qui vous le dis. Mais il faut que vous puissiez être chacun présent, à lever le doigt dès qu'on vous dit « on a besoin de quelqu'un pour aller ». On a besoin de quelqu'un pour travailler. On a besoin de quelqu'un pour ceci ou cela. Il faut qu'on puisse se lever et être un peuple guerrier qui se lève. Guerrier dans le bon sens du terme. On n'est pas avec des kalachnikovs. Pour ça, Dieu nous a prévenus. Et Dieu nous dit, je suis un Dieu jaloux. Si vous avez d'autres dieux que moi dans votre vie, alors là, ouais, je suis jaloux. Et c'est normal. Moi, mon père, moi en tant que père plutôt, en tant que père, quand je vois mes enfants, je suis un jour peut-être quand Cassandre va ramener un petit copain à la maison, le père, il va acheter un fusil de chasse. Mais il y en a d'autres qui sont passés avant moi dans ce... N'est-ce pas, Pascal ? Non, non, mais voilà, on a un Dieu qui est jaloux. Il faut absolument qu'on puisse être intègre devant Dieu, et avoir cette honnêteté, de dire « Seigneur, tu nous as donné ta parole, elle est juste, tu nous as tout donné en abondance, et tu es juste, et je veux absolument pouvoir te rendre ce culte, pouvoir te louer et t'adorer, comme toi tu en es digne, et toi seul en es digne. » Et donc c'est pour ça qu'on a d'autres dieux. D'autres dieux, ça peut être nos pensées. Quand je parlais d'intégrisme et d'intégrité, c'est nos pensées aussi qui font de nous des intégristes. Ce sont nos idées qui font de nous des intégristes. Ce sont nos habitudes qui font de nous des intégristes. Ce sont nos coutumes qui font de nous des intégristes. Dernièrement, je suis allé à un mariage des gens qui ne vont jamais à l'église. Donc on se retrouve dans une église catholique. Et le curé a fait prier une prière aux mariés. Mais je dis, mais est-ce qu'ils vraiment ils entendent ce qu'ils disent ? Des gens qui... cette prière était dans un engagement pour Dieu, etc. Oui, je m'engage à prier lorsque ça va mal, etc. Bon, mais j'étais pour leur dire, mais est-ce que tu as entendu ce que tu as dit dans la prière, là ? Tu viens jamais à l'église, tu te maries, tu viens à l'église et tu pries cette prière-là ? Tu te moques de Dieu ou bien ? Je vais en parler suisse. Tu te moques de Dieu ou bien ? Nos coutumes, nos traditions, notre éducation font de nous. Fait de nous, notre éducation fait de nous des intégristes. L'éducation. La religion, et ça c'est le plus grand exemple qu'on a aujourd'hui dans le monde. Et Jésus l'a bien dit dans Matthieu 12, 34, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et là il parlait aux pharisiens, des gens religieux. Des gens religieux, qui avaient des coutumes, des traditions, une religion. Une religion qui était là, et de l'abondance de cette religion, cette abondance qu'elle a mis dans leur cœur, eh bien, ils disaient des choses méchantes. Et ils inculquaient des choses intégristes. Déjà à l'époque de Jésus, il y avait les intégristes qui étaient là. Dans notre engagement, il faut absolument qu'on puisse avoir cet engagement pour Dieu. J'ai eu l'occasion de parler avec une famille il y a peu de temps de ça. Et cette famille me dit, mais... ça fait 3 mois qu'on n'est pas venu à l'église et on n'a eu aucune visite. Quand c'est comme ça, vous vous dites, est-ce que nous, en tant qu'église, on est fautifs ou est-ce qu'eux, en tant que chrétiens, sont fautifs parce qu'ils auraient pu prévenir l'église ? Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que on se doit d'être intègre avec Dieu et de pouvoir dire, je ne mets pas d'ultimatum à Dieu. Je ne viens plus à l'église, je vais mal, donc je ne viens plus à l'église. Donc si je ne viens plus à l'église, je vais mal. L'histoire du chien qui se mord la queue. Mais cette famille, je l'ai voulu l'exhorter à pouvoir rentrer dans cette intégrité. Comment ? Tout simplement en revenant à des bases avec Dieu. de pouvoir se réinvestir dans la prière, à pouvoir lire la parole, à avoir des partages dans la famille, à pouvoir lire la Bible en famille et de pouvoir passer à autre chose que ce qu'ils ont vécu il y a quelques années de ça. Parce que ce sont des gens qui se sont arrêtés à un événement de leur vie qui s'est passé il y a quelques années. Et depuis, ils restent dans un état, entre guillemets, végétatif spirituel. Et Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas qu'on s'arrête à un moment donné de notre vie. Il souhaite, justement, avoir de l'abondance. Ce qui est passé, est passé. Les événements peuvent être aussi difficiles qu'ils le sont, mais Dieu veut que l'on puisse avancer. La vie fait que, des fois, on a des épreuves, on a des difficultés, mais Dieu est là et il marche avec vous. Il va être à côté de vous. Il va vous aider à sortir de ces moments et il va pouvoir vous faire grandir et vous donner selon vos besoins. Et s'il le faut, il va vous donner en abondance. Il y a une vidéo que je voudrais essayer de passer. Je ne sais pas si Alex a eu l'occasion de voir au niveau technique. Elle dure 4 minutes, cette vidéo, et je ne vais pas être trop long. Cette vidéo fait 4 minutes, mais elle est très révélatrice de la vie du chrétien. Vas-y. T'as pas le son avec, non ? Voilà. Cette vidéo, elle est. Je l'ai piquée à un autre prédicateur. Mais il n'y a même pas de commentaire à faire. Quand on imagine les mois, les années qu'il a passé à s'entraîner, c'était la course de sa vie, et qu'à 200 mètres de l'arrivée, pouf, foudroyé. Mais on a un Père qui est là, qui nous donne. Et la course, Paul le dit, hein, tous courront cette course, un seul remportera le prix. Mais on est tous à avoir notre propre course. Notre propre course. Beaucoup trop de chrétiens, une fois l'accident passé, restent sur le sol et attendent les brancardiers. Mais quelque part, c'est pas mal. Si les brancardiers viennent pour pouvoir guérir et pouvoir passer les lignes d'arrivée ensemble. Mais trop de chrétiens restent sur le sol. Courons la course. Courons la course pour pouvoir franchir les lignes d'arrivée. Peut-être pas les premiers. Peut-être pas les premiers. Mais franchissons la ligne d'arrivée pour Dieu. Parce qu'on a Dieu justement qui vient là et qui est près de nous et qui va faire en sorte que l'on puisse la passer cette ligne d'arrivée et qui va nous supporter. Qui va nous supporter, nous porter au-dessus et faire en sorte que la douleur passe plus inaperçue. Tu remets en plein écran, diaporama en bas, le petit écran là. Ici, là. Je ne vais pas aller plus loin. J'ai encore quelques versets. Je vais terminer juste sur celui-là, pardon. Psaume 18, verset 3. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Quand ça va mal dans votre vie, que vous avez le bourdon, même quand ça va bien dans votre vie, que vous n'avez pas le bourdon, louez Dieu. Criez, écriez-vous. Ça se dit ça? Écriez-vous, loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Chantez, mettez la louange, laissez-vous imprégner, laissez-vous inonder par la louange de Dieu. Et rendez-lui ce culte, rendez-lui cette louange, ayez un cœur reconnaissant, remerciez en tout temps. Et à partir de là, Dieu va s'occuper de qui? De tous vos ennemis. D'accord? Et vous serez dans l'abondance. Amen. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Je te rends grâce, Jésus, parce que tu es tellement bon. Tu es tellement bon, Jésus. Tu es tellement grand. On le chante souvent ce chant, Seigneur. On chante combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront sa gloire, combien Dieu est grand. On chante tellement de chants, Seigneur, qui proclament ta grandeur, qui proclament le fait que tu sois un Dieu d'abondance. En toi l'aveugle voit, en toi le muet chante, en toi le sourd entend. On est libre de courir. C'est un autre chant, Seigneur, qu'on te chante ça. Mais Seigneur Jésus, on veut rentrer dans ces paroles. On ne veut pas chanter juste des paroles pour dire de faire un karaoké. Seigneur Jésus, on veut vraiment faire de la louange parce qu'on veut vraiment avoir cette adoration pour toi et des cœurs reconnaissants. Je te rends grâce pour ces paroles, Jésus. Grave-les, tatoue-les, Seigneur, dans chacun de nos cœurs. Que nous puissions avoir envie, soif et ce désir de pouvoir aller encore plus loin avec toi et pour toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Jésus, d'être grand dans la spiritualité pour toi, Seigneur Jésus, de pouvoir grandir spirituellement, devenir des disciples, devenir, Seigneur Jésus, des adultes spirituels, des gens qui auront une stature, Seigneur, que tu pourras utiliser dans ton service. Et de là, Seigneur Jésus, le jour où on sera face à toi, tu pourras nous dire, rentre, bon et fidèle serviteur. Seigneur Jésus, vraiment, je crois que ces prochains mois, ces prochains jours, Seigneur Jésus, on va pouvoir voir encore de grandes choses, Seigneur, dans ton Église, parce qu'il y a des gens qui vont se lever. Donne-nous, Seigneur, cette fidélité. Donne-nous d'être intègres devant toi. Merci, Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour qui tu es, Seigneur Jésus, pour chacun de nous. Merci pour qui tu es pour moi, Seigneur. Amen. Si on pouvait reprendre le dernier chant, le nouveau que tu as repris. Si vous avez besoin... Si vous êtes vraiment dans un moment de creux, si là en ce moment c'est une période difficile pour vous et que vous ne voyez pas le bout du tunnel, on peut prier pour vous. Soit on le fait là maintenant, vous vous approchez et on prie pour vous et on vous donne ce réconfort, soit on peut en parler après. Mais restez pas seul, ne restez pas seul dans cette situation. Donc si vraiment tu te sens à bout, plus de force, que tu ne sais pas où tu vas, approche-toi, on va prier pour toi.